Chapitre 3e. À cette époque, je suis avec de vieux amis, et d'ailleurs, que celui qui est sans péché me jette la première pierre, à l'occasion d'une certaine circonstance, je reçus un petit pot de vin. Et ça se passa dans ce salon où nous sommes. Il faut recevoir civilement les gens qui apportent de l'argent. Eh bien, il me sembla que son Excellence écarquillait les yeux, et me regardant d'une terrible manière, me disait « Comment ?» Coquin devant moi. Cependant, au bout de quelque temps, je m'aperçus que, à moi-même, le portrait m'inspirait moins de crainte respectueuse. Mes fils gambadaient devant lui et lui faisaient des grimaces. Ma Catherine Vassilievna appela un jour de petits marchands ambulants, les fit entrer dans la salle à manger, ouvrit et étala leurs ballots, puis marchanda une broche et un bracelet assez chers. Je l'appelai dans le salon, ne voulant pas la réprimander devant les marchands. « Catherine Vassilievna, lui dis-je, tu n'es déjà plus si jeune pour porter encore des broches et des bracelets, et surtout pour en acheter de nouveaux. » Elle entra en grande colère et s'échappa jusqu'à me dire un gros mot que je ne vous répéterai pas, puis un second, puis un troisième, puis encore. Je la pris par le bras et lui montrant le portrait, je lui dis « Comment, Catherine Vassilievna, n'as-tu pas de honte devant son Excellence ?» L'effet sur lequel je comptais fut tout à fait manqué. Catherine fut prise d'un fou rire, au point de se rouler sur le divan. Quelque temps après, à l'occasion d'un petit dîner entre amis, j'avais la tête prise et comme dévissée. Je me mis en robe de chambre, m'appliquai sur le front une compresse de vinaigre, et sans vergogne, je vais m'asseoir dans le salon en face du portrait, et là, j'ose à peine le dire, je m'écriai « Eh bien, mon vieux, je suis ivre !» Je ne vais pas au tribunal et tu ne peux rien me faire, ni me dire. » Il est vrai que le lendemain, je fus un peu étourdi de mon audace de la veille, mais je fus surtout effrayé de la diminution de ma crainte respectueuse pour son Excellence. Qu'arrivera-t-il de cela? Un empereur romain fit avec raison battre de verge un citoyen qui avait vaqué à une occupation malpropre, ayant dans sa poche le portrait du souverain sur une pièce de monnaie. Les enfants grandissent. Il continue à faire des grimaces à son Excellence. Les laisserai-je ainsi s'élever dans cette absence de respect pour l'autorité? Quel sera leur avenir? Je pris un parti. Je demandai un congé de 2 semaines et j'emportai le portrait du gouverneur. J'appris au district que son Excellence venait de recevoir la grande croix de Saint-Vladimir de 2e classe. C'était une seconde plaque, un second crachat, et le portrait n'avait qu'une plaque et pas de cordon. Il n'y avait pas à hésiter. Karl Ivanovitch était retourné en Allemagne. J'allais trouver Ivan Lazareff, un serf libéré, grand ivrogne, mais un de nos meilleurs peintres d'images, et je lui demandais s'il pourrait retoucher le portrait de son Excellence. « C'est que, lui dis-je, il ne faut pas badiner, c'est de la peinture allemande. »« La peinture allemande, dit Lazareff, je m'en fiche pas mal. Il m'a passé par les mains de la peinture italienne, et elle n'a pas eu à s'en plaindre. Je vous ferai des Raphaël quand vous voudrez. » J'ai étudié 10 ans à Arzamovs. Quant à la peinture allemande et à cet Allemand Karl Ivanovitch, il est cause que je ne peins plus de portraits. La mode en est passée depuis qu'il a porté ici une machine devant laquelle chacun fait soi-même son portrait en s'y regardant. Il est clair que c'est une industrie du diable, tandis que mon industrie à moi, peintre de saintes images, s'exerce par la grâce et avec la bénédiction de Dieu. Mais, lui dis-je, Ivan Lazareff, il me semble que ta main tremble. « Ivan Semenovitch, me dit-il, ne t'y trompe pas et ne t'en inquiète pas. Ce n'est pas la diminution de mon talent, c'est la boisson. Je bois Zaporimpin, ce que les Français appellent la tire-larigot. Mais quand je suis devant une toile ou un panneau de bois, il n'y paraît pas. D'ailleurs, j'en ai tant fait et refait des portraits de gouverneurs que ma main les peint d'elle-même. Donne-moi une bonne mesure d'eau-de-vie, bande-moi les yeux et je te ferai une Excellence magnifique. » Tu n'auras qu'à me dire si tu la veux en pied ou en buste, assise ou debout. Dis à ton Karl Ivanovitch d'en faire autant. Eh bien, lui dis-je, ce portrait de Karl Ivanovitch laisse en effet à désirer. C'est une occasion de montrer de quoi tu es capable. Change-moi ce frac peu convenable en un riche uniforme. Mets dessus 2 plaques et un cordon rouge traversant la poitrine. Ajoute-lui aussi une plus grande épaisseur de sourcils, de la majesté, de la sévérité. Tu l'as vu? « Oui, mais tu ne l'as pas vu m'appelant imbécile. Ne crains pas d'exagérer son air terrible. Puis redore le cadre de l'or le plus fin et le plus rouge. Combien me demandes-tu ? 30 roubles d'argent.
C'est cher, mais je te les donnerai volontiers si son excellence est ressemblante.
Quelques jours après, je suis retourné chez le peintre. Certes, il n'est pas convenable de faire l'éloge de ce qu'on possède, mais la vérité avant tout, l'ouvrage était réussi. J'ai regardé son excellence et j'ai baissé les yeux. Et je ne trouvais pas l'artiste présomptueux quand il me dit « Ce n'est pas un gouverneur de province, c'est un tsar, c'est Pierre, c'est un lion, ses yeux jettent des foudres, il va rugir. » C'était vrai. Son excellence passait l'inspection et allait me dire « Ce que vous savez. » En le regardant, on sent son âme descendre au talon. Je dis au peintre « Ivan Lazareff, tes mains sont d'or. Mais pourquoi, sale museau, bois-tu autant ?»«
On commence à boire dès l'école de peinture, » me dit-il, « ça fait partie de l'art. Et ton Karl Ivanovitch, combien de fois l'ai-je vu tellement ivre que même un russe ne saurait l'être autant ?»«
N'importe, Ivan Lazareff, je suis satisfait de ton ouvrage. Voici 30 roubles et un demi-rouble que j'ajoute.
Pour boire ?»«
Pour boire si tu veux, et surtout si ça paye la rançon des 30 roubles. » Je portai son excellence à la maison et la remis à sa place. Depuis ce temps, il règne ici un calme de paradis. Catherine ne me dit plus d'injures. Si les enfants ont des caprices, il suffit de les amener devant son excellence. Mais aussi, vous voyez, quelle majesté, quelle sévérité, quel air terrible, quels yeux! Et les deux plaques, et le ruban rouge, tout y est. Si par hasard je me mets un peu en retard pour aller au tribunal, eh bien, j'évite, en m'y rendant, de passer dans le salon et devant son excellence, je préfère passer par la cuisine. Et je ne suis pas le seul. Vous vous souvenez, Anton Mikhailovitch, l'année dernière, nous soupâmes ici. Le soir, nous fîmes du punch, dans ce salon. Le punch allumé, on éteignit les bougies. À cette lueur bleue et diabolique, il nous sembla à tous que l'aimable, que la précieuse figure de l'excellence se contractait et faisait de menaçantes grimaces. Et c'est vous, Anton Mikhailovitch, qui vous écrit hâte. Éteignez le punch, éteignez le punch. Moi, je suis allé promptement chez Catherine, j'ai pris un voile, et avec respect et componction, je l'ai jeté sur le tableau.
C'était un rêve, dit le bailli du district.
Ce n'était pas un rêve, dit Anton Mikhailovitch. C'était tout à fait la figure qu'avait son excellence à la dernière inspection, lorsqu'il a poudré tout le monde, et vous surtout, bailli, relativement à l'état des ponts.
Ce n'était pas un rêve, et Ivan Pavlovitch lui-même, le soir du punch, ne souffla pas le mot plus qu'il ne fait en ce moment.
Mais où est-il, ce fils de Voltaire?
À ce moment seulement, la voix de notre hôte eut jusque-là couvert le bruit, on entendit Ivan Pavlovitch ronflant sur la chaise qu'il avait reçue dans sa détresse. 5 messagers et 10 estafettes n'auraient pas réveillé le maître de poste.
Ainsi, ou du moins à peu près ainsi, parla la belle russe. Je suis bien certain de me rappeler sa voix et ses yeux, et la grâce de ses gestes. Mais je ne réponds pas de me rappeler aussi exactement ses paroles. Je la prie donc de me pardonner, et j'adresse la même prière à André Petcherski, M. Melnikov, pour les erreurs de ma mémoire. J'espère que cette très faible esquisse donnera du moins au lecteur le désir de lire les récits d'André Petcherski, entièrement et plus dignement traduits que par un homme qui ne possède que tout au plus une des 2 conditions que les lecteurs, même les plus indulgents, ont le droit d'exiger d'un traducteur. Ainsi s'achève le gâteau de fête d'Alphonse Karr.